Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc, le titre du message aujourd'hui s'intitule « Le feu de Dieu dans l'Église ». Et c'est le deuxième message d'une série sur l'Église. Le premier était « Renouveler votre vie d'Église ». En réalité, c'était « Renouveler votre façon de penser et de voir certaines choses telles que le Seigneur Jésus les veut pour son Église ». Et pour aujourd'hui, donc l'idée principale que je voudrais que vous reteniez, que je vais tout de suite vous révéler, c'est qu'il y a une puissance qui est de nature spirituelle qui fait la différence entre l'Église et un club social. Les gens peuvent se rassembler pour toutes sortes de raisons, des fois très bonnes, et ils peuvent même se rassembler en tant que croyants. Mais si nous n'avons pas cette manifestation d'une puissance qui est de nature spirituelle, qui est quelque chose qui est surnaturel, nous ne sommes pas différents que tout ce qui peut exister comme organisation humaine. Et nous savons que l'organisation humaine, même si c'est des choses très bien dans la pensée de ce qu'ils veulent aider, seront toujours limitées. Pensez que chaque fois qu'il y a un drame ou une crise quelque part, on envoie des organisations qu'on appelle les ONG, l'organisation non gouvernementale, les associations qui viennent aider pour beaucoup de choses. Mais il y a des choses qui ne pourront jamais être faites. Et pourtant, nous qui avons tellement entendu ça, nous en sommes persuadés que Dieu est esprit et que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes aussi esprit et que notre premier besoin, il sera toujours de nature spirituelle. Parce que le monde va passer. Nous savons que si le Seigneur tarde, nos corps vont mourir. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Quelque chose de nature spirituelle et éternelle. Donc, le besoin primordial sera aussi de cette nature. Et l'Église, son premier rôle, même si l'Église fait de bonnes choses au niveau social, on peut aider les pauvres, on peut nourrir les affamés, et tout ça, c'est très bien. Les missionnaires ont fait beaucoup pour qu'il y ait dans certains endroits des écoles et des dispensaires et des hôpitaux et tout ça c'est très très bien, mais l'Église, sa première fonction sera toujours et avant tout de nature spirituelle, c'est communiquer des paroles qui sont esprit et vie. Ça c'est notre première vocation. Donc on va pas se faire l'avocat du diable, comme on dit, en parlant un même langage négatif que lui ou mensonger. Du style de tous les manquements de l'Église, ce qu'elle ne fait pas, même si l'Église, elle est composée d'êtres humains avec leurs faiblesses, et il y a des fois des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, et il y a des choses qui devraient être meilleures dans l'Église, par l'Église locale et l'Église en général, mais nous ne voulons pas adopter un langage négatif sur l'Église, que ce soit maintenant notre Église, ou que ce soit toutes les Églises, ou l'Église tout court, le corps de Christ. Donc dire qu'il n'y a pas d'amour dans cette église, qu'il n'y a pas de puissance dans cette église, etc. Tout ça ne sert à rien, si ce n'est d'empêcher l'œuvre de Dieu. Donc nous voulons regarder maintenant quelle est la nature de ce qui se passe dans l'église. Et comme l'église n'est pas quelque chose qui est extérieur à vous, ça va vous bénéficier directement. Je veux que vous soyez conscient que ce que je vais dire va directement avoir un effet sur votre vie de tous les jours. Parce que vous faites pleinement partie de l'Église, étant une partie de son corps. Donc, regardons d'abord comment est née l'Église. Où est-ce qu'on situe le début de l'Église habituellement? C'est pas le groupe des premiers disciples de Jésus. Ils n'étaient pas nés de nouveau, nous le savons. Ils vivaient une transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais tant que Jésus n'était pas mort et ressuscité, il ne pouvait pas y avoir quelqu'un qui soit né de nouveau. Puisque Jésus était le premier-né d'entre les morts. Il n'a été le premier et les autres n'ont pu que suivre. Donc même son groupe de disciples, dans un premier temps, ne représentait pas réellement l'Église. L'Église réellement née pour nous au moment de la Pentecôte. C'est donc l'Église, on peut dire, elle est née par le feu. Par le feu de la Pentecôte, il y a eu une naissance de ce corps, de cette... chose nouvelle, parce que ça n'existait pas. Avant, il y avait Israël et puis il y avait les nations. Et maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Il y a l'Église de Dieu. Et donc l'Église, elle est née par le feu. C'est pour ça le feu de Dieu dans l'Église, il faut qu'il y soit toujours. Sinon, il n'y a plus d'Église. L'Église n'a pas été créée par un feu destructeur, mais par une puissance. Luc 24, 49, c'était l'exhortation de Jésus à ses disciples. Il a dit, ne faites rien, ne bougez pas, littéralement, et attendez. Luc 24, 49, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il y a même, alors vous direz, mais ça c'était un moment bien précis, il fallait rester à Jérusalem, il y avait une promesse de Dieu pour l'effusion du Saint-Esprit. En quoi ça me concerne aujourd'hui? Moi je crois qu'il y a aussi des moments dans votre vie où Dieu vous demande de vous attendre à lui et de ne pas bouger, de ne pas vous agiter, de ne pas vouloir entreprendre plein de choses avant que, ou jusqu'à ce que vous ayez reçu de lui la direction, vous ayez reçu de lui le plan et vous ayez reçu de lui la capacité de le mettre en route. Donc de la même façon que l'Église ne devait pas, puisqu'elle n'existait pas réellement au sens où nous la connaissons maintenant, le groupe des disciples ne devait pas maintenant se précipiter sans qu'ils aient reçu le revêtement. Donc la Pentecôte s'est manifestée, ils ont persévéré dans la prière, il nous est dit, dans acte 1, ils se réunissaient, et dans acte 2, il nous est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison, ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et c'était la façon dont Dieu voulait manifester que ce feu de l'Esprit était maintenant sur chacun. Donc, je crois que c'est important que nous puissions réaliser que c'est pas simplement un fait historique, un souvenir d'autrefois. Nous avons même, il y a des églises, il y en a une à Strasbourg, où il y a une fresque avec les apôtres et on voit la petite langue de feu au-dessus de la tête de chacun. Donc tout ça, c'est bien, ces représentations, mais nous devons réaliser qu'est-ce que ça a comme conséquence dans notre vie. Alors, il y a des gens qui se veulent pentecôtistes et d'autres non pentecôtistes. Il y en a qui situent des choses en disant, voilà, ça a existé à un moment précis, et puis maintenant, voilà, on n'a plus besoin, ou que sais-je. Alors, dans les discussions que peuvent avoir les chrétiens entre eux, quelqu'un dit, voilà l'explication. Il y a eu la première Pentecôte. Et ensuite, on lui a dit, mais il y a eu une autre Pentecôte. Dans acte 8, il y a eu à Samarie, ce moment où les croyants, suite au témoignage de Philippe, ont reçu l'imposition des mains des apôtres, et il nous est dit qu'ils ont, à ce moment-là, été remplis du Saint-Esprit, et se sont mis à parler en d'autres langues. Donc, il nous est dit, je vais lire le passage précis, acte 8, 14, « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. » Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Et donc, quelque chose s'est produit, quelque chose de visible, quelque chose d'audible, puisque Simon le magicien, comme on le surnommait, a voulu acheter ce don. Donc il y a quelque chose qui l'a impressionné au point qu'il l'a désiré avoir cela. Donc on a donné comme l'explication, bon, il y a eu la première Pentecôte, c'est là que Dieu l'a fait pour la première fois dans le peuple d'Israël. Et puis une deuxième fois, il l'a fait parce que c'était une catégorie de personnes particulières, c'était les Samaritains. Donc il y a eu la Pentecôte des Samaritains. Et ensuite, on a dit, oui, mais alors dans acte 10, il y avait aussi dans la maison de Corneille cet épisode où suite à l'évangélisation par Pierre, acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les disciples, fidèles, circoncis, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Donc, on a dit, mais alors, oui, il y a eu la première Pentecôte pour Israël, ensuite il y a eu une Pentecôte, c'était pour les Samaritains, et donc cette fois-ci c'était la Pentecôte pour les Romains, puisque Corneille, dans sa maison, avait ses amis rassemblés. Alors, nous voyons dans la parole de Dieu qu'à un moment donné, Paul était à Éphèse, il a parlé avec un groupe de disciples, il a vu qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, leur a imposé les mains, et ils ont reçu le Saint-Esprit de la même façon, ils ont parlé en d'autres langues. Alors cette fois-ci, c'est la Pentecôte des Éphésiens. Donc chaque fois, on peut découper, on peut trouver des explications fameuses, et quelqu'un dit, alors, ce qu'il nous faut ici maintenant, c'est la Pentecôte des Alsaciens. C'est que chacun doit vivre sa propre expérience. On ne peut pas en rester là à des explications historiques. Et vous avez chacun besoin de vivre votre propre expérience. On ne peut pas être un pentecôtiste de la deuxième, troisième ou quatrième génération. Donc il y a un moment où il y a un réveil. Pourquoi? Parce que les gens ont soif, parce qu'ils désirent. Et la première génération désire le transmettre à la deuxième. Mais il ne peut pas se faire automatiquement. Il faut que chaque génération ait de nouveau son propre désir et cette soif de Dieu. Alors j'aimerais vous lire, c'est déjà une histoire un petit peu ancienne, mais ça va nous faire du bien de réentendre ce que Dieu a fait quand même relativement récemment, puisque c'était au XXe siècle. C'était le réveil qu'il y a eu en Indonésie, sur l'île de Timor. C'est dans le livre « Comme un souffle violent » par Mel Tari. Alors il raconte, quel que soit maintenant le nom des dénominations, il dit « J'appartiens à l'Église réformée, où l'ordre régissait toutes choses. Lorsque nous allions à l'Église, tout le déroulement du culte était déjà prévu. Le pasteur lisait sa portion de la liturgie et nous la nôtre. Nous savions quand nous lever ou nous asseoir, quand prier ou chanter. J'appréciais l'ordre qui régnait dans mon Église et j'en remerciais Dieu en toute sincérité. » Nous avions aussi l'amour, ou plutôt, devrais-je dire, nous en possédions une petite mesure. Si quelqu'un nous souriait, nous lui rendions son sourire. Nous avions appris à aimer ceux qui nous aimaient. Par contre, nous ne poussions pas l'amour jusqu'à aimer ceux qui ne nous aimaient pas. Mais nous n'avions aucune puissance. Quand le réveil survint, Dieu nous accorda tous les dons du Saint-Esprit. La puissance, l'amour et l'ordre tout à la fois. Je me souviens très bien de cette soirée, c'était dans les années 65, dans notre église. Nous étions environ 200, de tous âges, rassemblés pour un service de prière. Tandis que nous prions, s'est produit soudain une chose étrange, comme dans le récit du chapitre 2 du livre des Actes. Nous connaissions ce passage depuis bien des années, et beaucoup même l'avaient appris par cœur. Mais jamais nous n'en avions fait l'expérience dans notre propre vie. Notre pasteur nous avait souvent dit, du moment que Dieu a envoyé l'Esprit-Saint à l'Église il y a 2000 ans, on le reçoit automatiquement au baptême. Ce soir-là, le Seigneur nous a ouvert les yeux et commencé de nous faire comprendre que cela n'avait rien d'automatique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, lisons-nous dans Jean 3,16. Dieu a donné son Fils pour le monde entier, pourtant cela ne signifie pas que tous les hommes iront automatiquement au ciel. Bien que Dieu ait fait ce don au monde, quiconque désire aller au ciel doit venir au Fils pour recevoir le salut. Il en est de même pour celui qui désire être rempli de l'Esprit-Saint. Jésus a donné l'Esprit-Saint à ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur personnel et qui sont ainsi devenus membres du corps de Christ. Cependant, chacun doit encore renoncer à lui-même et s'adresser personnellement à Jésus pour recevoir la plénitude de l'Esprit. Nous remercions Dieu de nous avoir ouvert les yeux ce soir mémorable et d'avoir allumé dans nos cœurs la soif de la plénitude de l'Esprit. Ces paroles de Jean-Baptiste nous sont alors revenues en mémoire. « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Durant des années, nos prédicateurs nous avaient induits en erreur en disant que nous devions nous contenter de l'expérience des premiers chrétiens. Mais ce soir-là, le Seigneur nous a révélé que vivre la foi chrétienne, ce n'était pas dépendre de l'expérience des autres. Il s'agit d'une expérience personnelle avec le Dieu vivant. Je remercie Jésus pour cette révélation. Un souffle violent et des langues de feu. Alors que nous étions en prière, le Saint-Esprit est survenu, comme au jour de la Pentecôte dans Actes 2. Nous lisons qu'il vint du ciel comme un souffle violent. C'est ce bruit que j'ai entendu, le mugissement d'un vent à l'intérieur de notre église comme au début d'une tornade. J'ai regardé autour de moi sans rien voir. Je me suis alors tourné vers ma sœur assise à mon côté. « Sœurette, entends-tu un drôle de bruit ?» lui ai-je murmuré. « Oui, mais ne t'en occupe pas, continuons de prier. » Elle s'est remise en prière et au même moment, plusieurs ont commencé à prier à haute voix. Il faut savoir que jusqu'à là, nous prions toujours chacun notre tour dans un ordre parfait. Il suffisait qu'une personne prie, puisque tout était imprimé sous nos yeux. Ce soir-là, pourtant, ces protestants réformés ont oublié leur prière liturgique et se sont adressés à Dieu par l'Esprit. D'abord quelques-uns, puis bientôt tous ensemble. « Oh Jésus !» me suis-je exclamé intérieurement. « Que se passe-t-il dans cette église ? Ils ont oublié le bon ordre de la réunion. » Alors que tout le monde priait, j'ai observé les pasteurs assis sur l'estrade, comme ils avaient l'air inquiets. Ils étaient là devant l'assemblée, ne sachant comment diriger ces 200 personnes en prière. Eux aussi entendaient le sifflement d'un coup de vent qui s'approche. Je regardais à nouveau autour de moi, rien ne bougeait. Ce n'était qu'un bruit. J'ai alors entendu sonner le tocsin. En face de notre église, de l'autre côté de la rue, se trouvait le poste de police et la cloche à incendie. L'agent de garde, ayant vu que notre bâtiment était en feu, avait sonné l'alarme. En Indonésie et en Timor en particulier, n'ont pas de voiture de pompiers. Bon, on parle de l'époque. On sonne simplement le tocsin et les gens comprennent qu'il y a le feu et accourent de toutes parts avec leurs seaux d'eau et d'autres récipients pour tenter d'éteindre le feu. En arrivant à l'église, ils ont bien vu les flammes, mais l'église ne brûlait pas. Il ne s'agissait pas d'un feu naturel, c'était le feu de Dieu qu'ils voyaient. Ils en ont été tellement saisis que beaucoup se sont livrés à Jésus-Christ et ont reçu le baptême de l'Esprit-Saint. Naturellement, les expressions « baptême dans le Saint-Esprit » ou « être rempli de l'Esprit-Saint » nous étaient étrangères. C'était comme quelque chose de nouveau. Mais le Seigneur nous a fait comprendre la nécessité de cette expérience dans notre vie, car nous ne pouvions dépendre d'une Pentecôte survenue il y a bien 20 siècles auparavant. Il est bien vrai que nous ne pouvons dépendre de l'expérience de nos pères. Nous devons vivre ces choses nous-mêmes. C'est valable non seulement pour le salut en Jésus-Christ, mais aussi pour le baptême dans le Saint-Esprit. On ne peut se contenter de ce qu'ont vécu Pierre ou Jean, ou les autres croyants de la Bible. Est-ce qu'un jeune homme renoncerait à se marier pour la bonne raison que son père l'avait fait avant lui? Bien des chrétiens ne comprennent pas de quelle puissance, de quel amour, de quelle joie ils se privent en vivant sans la plénitude de l'Esprit. Donc nous sommes ensemble maintenant pour nous rappeler cette exhortation de Paul aux Éphésiens quand il a dit « Soyez continuellement remplis ». Nous-mêmes qui avons fait déjà certaines expériences, ça ne nous sert à rien, même si c'était la semaine dernière, même si c'était il y a un mois ou un an ou 10 ans. Ça ne nous sert à rien de vivre sur simplement des souvenirs et des expériences du passé. On a besoin de quelque chose de tout nouveau. Donc, quel est le besoin de l'Église actuelle? Quand je parle Église, pensez toujours à tous les niveaux. La grande Église universelle, les Églises locales, notre Église, et vous-même en tant qu'individu qui faites partie de l'Église. Alors, beaucoup pensent qu'on peut lister les besoins, qu'ils soient maintenant de l'Église ou les besoins personnels, qu'on peut les lister. Par exemple, si vous posiez la question, qu'est-ce qui irait mieux si on avait quoi dans l'Église? Alors, certains diraient de plus grands bâtiments, d'autres diraient plus d'argent, ou peut-être plus de bénévoles, des volontaires, des gens qui s'engagent, de meilleurs responsables, plus d'équipements, d'appareils. En réalité, quand on pense à tout ça, la plupart du temps, nous listons nos besoins par des choses matérielles. Même dans l'Église. On peut critiquer les gens en disant, voilà, ceux-là sont matérialistes, mais nous, on est spirituels. Et quand vous listez vraiment vos besoins, souvent, ça se résume à des choses comme l'argent, ou des biens, ou des choses, etc. Donc, nous ne vivons pas sur un nuage en disant qu'il n'y a pas de besoins physiques, réels, matériels. Mais simplement dans l'ordre des priorités. Pensez-y. Nous le voyons même ici dans le travail missionnaire, quand on voit les demandes ou les requêtes de certains partenaires au niveau des centres de formation biblique. Certains pensent qu'on ne peut pas commencer du bon travail pour Dieu avant qu'on ait tous les équipements, que ce soit maintenant projecteur, caméra, système son et que sais-je encore. Mais de quoi en avons-nous réellement le plus besoin, personnellement aussi? Notre vrai besoin, c'est d'avoir la présence même de Dieu. C'est notre vrai besoin, on l'a peut-être déjà entendu, mais c'est quand même, encore une fois, la réalité. On a besoin de lui-même et qu'il se manifeste tel qu'il est par le feu, par sa puissance. Parce que c'est seulement le feu qui a pu donner naissance à l'Église, qui a pu nous recréer. Et j'ai pensé à cette illustration par rapport au cosmos. Nous pouvons voir les planètes, etc. Jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, nous sommes la seule planète habitée de ce que les astronomes ont pu observer. Pourtant, il y a d'autres endroits où on nous dit qu'il y a aussi des planètes gazeuses, ou même on pense qu'il y a de la présence de l'eau ici et là. Mais qu'est-ce qui manque? C'est que nous sommes dans une position idéale par rapport à la distance du Soleil. Ça nous donne, par le feu qui est dans le Soleil, exactement les conditions qu'il nous faut pour vivre. Et nous pouvons dire qu'en tant que chrétiens, on a besoin de cette même exposition au feu de Dieu. Non pas un feu qui nous détruit ou qui nous brûle. On sait que si la planète Terre était plus près du Soleil, ben ça marcherait pas. Et si elle était plus loin, non plus. On a besoin vraiment de trouver cette distance où Dieu est influent dans notre vie. Mais la plupart du temps, nous sommes mal orientés sur les besoins tels que nous pouvons les lister. Alors pour ça, on va encore regarder ensemble une illustration dans 1 Roi 18. Là, je vous invite vraiment à prendre ce texte, parce que je voudrais rester dans cette histoire pour partager avec vous plusieurs pensées, plusieurs idées. C'est une situation où ça n'allait pas fort en Israël, puisque nous sommes là à Samarie, avec le roi Akab, et il nous est dit juste avant que Akab, ben, il s'était très mal comporté, pire que certains qui étaient avant lui. Il avait aussi fait une alliance avec un prophète de Baal en épousant sa fille. Et donc, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le pays. Et comme une condition, comme une conséquence, pardon, de la malédiction, eh bien, il y avait une sécheresse. Alors, ça faisait combien de temps? Environ 3 ans, ça durait, la sécheresse, déjà, au moment de l'histoire. Et cette sécheresse, donc, était importante. Alors, quand il y a une sécheresse, quel est le besoin? Ben, de l'eau. Ben, c'est tout simple. Donc, pour le peuple d'Israël, il y avait un besoin d'eau. Et dans le sens de ce que je veux partager avec vous, nous pouvons aussi, dans notre vie, regarder qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui va pas. Une sécheresse, il y a un besoin, donc j'identifie le besoin. Je dis, c'est de ça j'ai besoin. Si vous posez la question à quelqu'un, voilà, il y a sur un pays, il n'y a pas plu depuis 3 ans, quel besoin? Ben, c'est de l'eau. Donc, il y a cette fameuse rencontre. Élie veut maintenant faire une démonstration de la puissance de Dieu. Il rassemble sur le mont Carmel le peuple. D'un côté, il y a tous les prophètes de Baal, et de l'autre côté, il est lui. Et lui, et il est seul, bon, sauf que lui, il pensait être avec Dieu. Mais pensez à vous-même, dans beaucoup de défis que vous devez affronter, dans beaucoup de situations, même si vous avez un compagnon, un conjoint, des parents, ou des enfants, ou des amis, il y a beaucoup de situations où nous sommes seuls avec notre foi. C'est quand même une réalité. Chacun de nous rendra compte pour lui-même. On ne peut pas dire c'est à cause de lui ou de elle. C'est nous-mêmes. Donc il y a des situations où nous sommes seuls. Seuls avec notre foi, seuls avec ce défi. Est-ce qu'on va faire confiance à Dieu ou non maintenant? Et donc Élie est bien conscient de ça. Et au verset 22, il dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. » Et en face, il y a 450 prophètes de Baal. Alors qu'on nous donne maintenant 2 taureaux, on va les apprêter. Et un peu plus loin, il nous est dit, « Vous allez invoquer le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » On est d'accord avec ça, que le Dieu qui répond par le feu, ce sera un signe que c'est lui que nous devons suivre. Parce que juste avant, il leur avait lancé ce défi. Il avait dit, mais vous devez maintenant vous décider pour votre vie. Et je pense que pour beaucoup de personnes, on est insatisfait, on ne sait pas vraiment quoi faire tant qu'on n'a pas pris une décision. Allez dans un sens ou allez dans l'autre, mais ne soyez pas assis entre deux chaises. À un moment donné, prenez une décision. Bon, ce qu'il dit pour nous, c'est inacceptable. Il dit, si bah allez Dieu, alors allez après lui. Mais il leur dit, prenez une décision, parce qu'il sait déjà lui de quoi il parle. Alors, on passe un peu l'histoire, parce que il dit, commencez les premiers, invoquez votre Dieu. Donc, ils font tout ce qu'ils savent faire. Ils font toutes leurs choses, de sauter devant l'autel. À un moment donné, ils se font des incisions. Il y a du sang qui coule. Il nous est dit, prophétise. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Verset 29. Rien ne se passe. Élie est même tellement sûr de lui qu'il se moque d'eux. Il dit, mais criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à autre chose, où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Et ensuite, Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Remplissez 4 cruches. On est en pleine sécheresse. L'eau est très précieuse. Et voilà qu'il faut encore la gaspiller. Déjà, on a du mal à en trouver. Donc, non seulement il dit une fois, ensuite il dit, faites-le une seconde fois. Ils l'ont fait. Faites-le une troisième fois. Et ils l'ont fait une troisième fois. Donc, cette eau précieuse a été répandue. On pourrait dire gaspillée. Et en plus, ça garantissait que maintenant, il n'y avait vraiment plus aucune chance que ça s'enflamme facilement. Mais au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança, il dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait ces choses selon ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, et que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Même les pierres ont été consumées, vous imaginez? Tout a été consumé. Consumé, ça veut dire brûlé, détruit totalement. C'était pas un petit feu. La terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc pensez, cet homme était seul. Il était seul avec Dieu. Pourtant, il a été l'instrument de réveil. Donc nous aussi, changeons notre mentalité par rapport à la façon dont Dieu va opérer, comment pourrons-nous toucher la génération. Je sais qu'il y a des gens, et je n'ai absolument aucune critique à formuler à leur égard, qui font beaucoup d'efforts pour que l'évangile soit accessible. Mais moi, je n'ai pas envie de faire des spectacles encore mieux que Star Academy ou de machin ou de truc pour convaincre les gens qu'ils ont besoin de Jésus. J'aimerais que au contraire, ça soit la puissance du Saint-Esprit en nous qui fasse de nouveau son œuvre de conversion, parce qu'on ne peut convertir personne nous-mêmes, ni par des arguments, ni par des super spectacles, ni par un programme génial. Nous avons besoin, pour moi, voilà ma conviction, nous avons besoin du feu de Dieu. Nos regards sont fixés sur notre besoin de l'eau, et en réalité, ce qu'il nous faut, c'est le feu. Et une fois que le feu se manifeste, que s'est-il passé? Élie dit, monte, mange et bois, Acab. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Vous voyez, les choses ne sont pas toujours dans l'ordre que nous croyons. Mais Dieu connaît les besoins. Mais il dit, tu as d'abord besoin de moi. Ensuite, je m'occuperai de tes besoins. Mais d'abord, moi. Et nous disons, souvent nous disons, si nos besoins sont pourvus, ça prouvera quoi, je ne sais quoi, que Dieu existe. Non. Il y a des gens qui ont des besoins matériels pourvus et c'est pas pour autant qu'ils vivent une vie meilleure avec Dieu. Donc, l'important, c'est que notre regard soit bien orienté, qu'on ne se trompe pas, qu'on comprenne que si on cherche d'abord cette puissance de Dieu dans notre vie, d'autres choses qu'on avait tellement besoin vont aussi se mettre en place. Donc, pour ça, on a besoin d'abord de reconnaître le vrai besoin. Des fois, on n'a pas le feu, on n'est plus bouillant pour Dieu, parce que tout simplement, on pense qu'on n'en a pas besoin. Quand on est désespéré pour quelque chose, alors on sait qu'on en a besoin. On le cherche jusqu'à ce qu'on le trouve. Et puis au bout d'un moment, peut-être on s'habitue à certaines choses et on dit « ça va bien ». Alors, réfléchissez à ça. Ce que nous tolérons, on ne peut pas le changer. Si on est dans une vie chrétienne moyenne, ça va pas trop bien, mais ça va pas trop mal non plus, alors on peut s'en contenter. On peut vivre dans cette situation. On n'a pas le feu de Dieu qui se manifeste, mais finalement les choses vont assez bien. Sauf que si dans ce genre de situation, on reste dans cette mentalité, au bout d'un moment, même ce qui allait bien commence aussi à diminuer. C'est la vieille histoire de la fable de la cigale et la fourmi. Tant que c'est l'été, qu'il fait beau, etc., on ne voit pas pourquoi il faudrait faire des provisions. Mais quand l'hiver arrive, c'est trop tard pour faire des provisions. C'est comme, il y a des personnes, et elles sont en bonne santé, elles ne voient pas pourquoi elles nourriraient leur esprit des paroles de bonne santé et de guérison, etc. Mais le jour où la maladie est là et que le corps est affaibli, des fois on n'a pas la force, pas le courage, la souffrance est là pour à ce moment-là se nourrir. Donc il y a une grande différence entre exercer sa foi et entre pratiquer la foi. Si on veut pratiquer la foi, au moment de l'épreuve, il faut qu'elle ait été nourrie et développée. Et souvent, on entend, pas beaucoup, j'aimerais qu'on en entende plus, mais quand on entend certains témoignages, certaines choses extraordinaires que les gens ont vécues, comme d'être guéris du cancer ou protégés surnaturellement lors des accidents, etc., des fois, on se rend compte que très loin, en amont, c'est des gens qui... On peut dire, ils faisaient comme les musiciens qui répètent encore et encore leur gamme. Ils se préparaient des provisions, des provisions, des provisions. Et le dépôt par le Saint-Esprit en eux était constamment alimenté. Et le jour où on en a besoin, c'est à notre disposition. Et on n'est pas comme l'histoire des vierges sages et folles qui n'ont pas préparé d'huile. Quand il fait jour, on se dit, pourquoi préparer de l'huile ? On n'a pas besoin, il fait jour. Mais oui, c'est parce que quand un moment, il fera nuit, on est tous pareils. On passera par des moments où on aura besoin de ce qu'on a préparé. On peut aussi être dans une attitude un peu de suffisance en disant, il y a des choses, c'est pas grave dans ma vie, je ne suis pas pire qu'un autre, je suis dans la moyenne. Oui, mais un moment, on n'a pas à se comparer aux autres. On est là et on doit se tenir dans notre situation pour nous-mêmes, voir est-ce qu'on tient. Donc, si on est dans une situation de tiédeur, on n'a pas le feu de Dieu, c'est le résultat de nos choix quotidiens. Quand, dans Matthieu 24, 12, on a souvent parlé de ce verset quand il est dit « L'amour du plus grand nombre s'est refroidi ». Il est précédé par « Quand l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se sera refroidi ». C'est parce que, en réalité, j'ai pensé à ça. Le monde qui nous entoure a une influence sur nous, qu'on le veuille ou non. Donc, il faut être attentif à ça. Et si le monde baisse son standard, si on voit maintenant dans le monde des choses qu'on ne voyait pas il y a 10 ou 20 ans, s'il y a des choses qui évoluent, et on veut nous dire que c'est du progrès, au bout d'un moment, ça a une influence sur nous. On commence un peu à baisser nos gardes, changer notre façon de le voir. On dit, oui, mais c'est pas tellement grave, ou c'est pas tellement mauvais. Et au bout d'un moment, ça nous influence, et le fait que ça nous influence, on peut commettre des iniquités, des péchés, par omission ou par négligence, pas forcément le désir de faire mal, mais où on n'est plus autant sur nos gardes. À ce moment-là, ça a aussi une influence sur notre vie, parce qu'il nous est dit, alors, il y a des choses qui se refroidissent en nous. Dernièrement, j'ai entendu une expression de quelqu'un, et c'est une expression que j'ai entendue plusieurs fois. Il y a des gens qui disent, il y a quelque chose, ce n'est pas négociable. Quand quelque chose n'est pas négociable, ça veut dire ça, je refuse de le remettre en question. Je dis, cette chose, il faut faire très attention quand le chrétien dit ce genre de mots. Parce que moi, je trouve que le chrétien devrait être quelqu'un qui doit tout le temps se remettre en question. Je suis jamais arrivé. Je suis pas dans une position d'excellence. Maintenant, je suis super chrétien et je dois plus progresser. Il y a des choses que je dois pouvoir remettre en question. Si je dis, je me rappelle d'une histoire très précise. Quelqu'un m'avait raconté ça. Des gens qui voulaient se consacrer au service de Dieu. Ils étaient américains. On dit, Seigneur, je te servirai où tu voudras, tant que ça reste sur le continent nord-américain. Donc, celui qui m'a raconté ça m'a dit, j'ai été choqué d'entendre ça parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. À la fois, on veut déclarer qu'on est prêt à suivre Dieu et en même temps, on met tout de suite une limite. Donc, dans notre vie aussi, voyons, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on dit, je suis prêt à tout sauf à ça. Ben, peut-être c'est sur ça qu'il faut travailler. Je me rappelle d'un message que j'avais fait concernant Isaac. Donne-moi ton Isaac, celui que tu aimes. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous ne voudriez pas lâcher pour Dieu? Rappelez-vous que si Dieu connaît ce qui se passe en vous, il ne veut pas vous priver ou vous frustrer. Mais si vous lui consacrez votre Isaac, il va vous le redonner d'une autre façon. Parce qu'Abraham, il avait cette foi. Il a dit, Dieu va me le redonner d'une autre façon. Si Isaac meurt, même si moi je sacrifie Isaac, Dieu va le faire ressusciter, enfin il va se débrouiller pour me le redonner, je vais pas le perdre. Et c'est là justement que prennent leur sens des paroles de Jésus en disant, si quelqu'un perd sa vie, il va la sauver. Mais si quelqu'un veut sauver sa vie, il va la perdre. C'est encore ce même principe que nous ne devons rien retenir devant Dieu. Dire, on peut lui donner, lui consacrer, il va le transformer, il va le changer, il va nous le redonner d'une autre façon, mais on ne va rien perdre. On n'a pas besoin d'avoir peur, on n'a pas besoin de se cramponner et dire, il faut pas que je le lâche. Il nous est dit que nous devons tenir ferme notre couronne afin que personne ne nous vole cette récompense, mais il n'est pas dit que nous devons retenir quelque chose devant Dieu. Donc, pensez à vos choix quotidiens que vous faites. Est-ce que c'est en vue de davantage vous consacrer à Dieu, davantage lui abandonner des choses, davantage lui permettre que le feu de Dieu se manifeste ou non. Et donc, pour être très concret, nous avons vu ici que Élie, qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, il a restauré l'autel de l'Éternel. Et dans la Bible, on a déjà quelqu'un qui a fait quelque chose dans ce genre. Vous avez une idée de qui ça pourrait être? Oui, plusieurs ont restauré des choses, mais voilà, c'est Gédéon que je voulais comme exemple, parce que Gédéon, c'était clair, il y avait un autel de Baal dans la propriété de son père, et donc il a abattu l'autel de Baal, et à la place, il a fait il a restauré le culte, on peut dire, à l'Éternel, et donc on peut dire qu'au travers de la Bible, que ce soit maintenant Gédéon ou Josias ou ici, Baal veut toujours revenir dans notre vie. Quand on dit des fois chasser le naturel, il revient au galop, on a dit quand vous mettez le diable à la porte, il veut revenir par la fenêtre. Il veut toujours revenir, toujours, toujours, toujours. Il va pas dire maintenant c'est terminé, je l'embête plus jusqu'à la fin de ses jours. Non, il est toujours en train de vouloir revenir, que ce soit lui ou quelqu'un de sa bande. Mais donc, il veut toujours se dresser de nouveau dans notre vie. Donc, il faut bien le savoir. Vous avez peut-être, vous pensez que vous êtes le seul, et face à vous, il y a 450 prophètes de Baal. Mais ici, il fallait restaurer l'autel de l'Éternel. Gédéon l'a fait, il l'a abattu. C'était une période où il y avait l'oppression de Madian. Et on voit ici, avec Élie, c'est encore la même histoire. Donc, vraiment, je vous encourage à faire aussi des prières de consécration. Et si le diable vous dit, ouais, mais tu l'as déjà fait, et regarde, là, tu as à nouveau échoué, la prière de consécration, ça devrait être une fois pour toutes, mais comme on est humain, il y a à nouveau un moment où on peut se relâcher. Vous pouvez faire une prière de consécration autant de fois que vous voulez. Moi, je dis, c'est quelque chose qui nous libère. Croyez pas? Ou est-ce que vous voulez être piégé dans vos pensées en disant, je l'avais fait, puis j'ai pas pu tenir mes engagements? Non, mais faites-le. Dieu voit la sincérité de votre cœur. Et au moins, vous allez le manifester, le verbaliser. Ouvrez votre bouche et dites-lui. On peut même lui dire quand on aimerait et qu'on n'arrive pas. Puisque c'est lui qui donne le pouvoir et le faire. Alors, on a vu quelque chose aussi dans 1 Roi 18, une particularité de Dieu ici. « Réponds-moi, Éternel, verset 37, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Que c'est toi. Une des particularités de Dieu, c'est quelqu'un qui veut ramener leur cœur. On voit même dans la Bible, il dit souvent, mais ce que Dieu désire, c'est pas que le méchant périsse, mais qu'il se convertisse et qu'il revienne. Il veut pas que le fils prodigue, bah t'as quitté la maison, bah tant pis, hein. Maintenant, remets plus jamais les pieds ici. C'est pas ça. Donc, il nous donne l'image telle qu'il est. Alors, il veut ramener le cœur aussi de son église et de chacun d'entre nous à lui. Vous dites peut-être, mais moi, je vis dans la proximité de Dieu, tant mieux pour vous, mais vous pouvez encore faire des progrès. Il faut dire la situation telle qu'elle est. La confession, c'est dire les choses comme elles sont, comme Dieu les voit. Il ne sert à rien de dire que on est la plus belle église, on est parfait, etc. Même si c'était. Donc, une des idées, c'est que nous avons vu l'influence du monde. Nous connaissons le verset qui dit « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde ». Mais moi, j'ai plutôt envie de dire pour l'église « Tel le monde est, tel l'église est dans ce monde ». Elle est comme le monde. La plupart du temps, elle est comme le monde. Alors qu'elle est appelée à être différente. Il doit y avoir une différence. Nous ne devons pas, en tant que chrétiens, faire des efforts pour convaincre les gens qu'on est comme eux. Sinon, ils ne viendront pas à nous pour dire « Nous voulons ce que vous avez ». Notre défi, en tant que chrétiens, c'est de montrer qu'il y a une différence. C'est pas de créer des barrières maintenant et des obstacles pour que les gens ne comprennent pas ce qu'on veut leur dire, mais de dire « Il y a une différence ». Or, où est la différence? Des fois, on se rend pas compte qu'il y a une différence. Les statistiques sont les mêmes et je ne condamne personne. Chacun peut avoir des échecs dans sa vie, etc. Mais si on voit les mêmes choses qui sont dans le monde se produire aussi dans l'Église, alors il y a quelque chose qui ne va pas. On a besoin de voir à nouveau des personnes dans l'Église qui pleurent sur leurs péchés. On a besoin de personnes qui ne cherchent pas l'Église comme une espèce de l'expérience chrétienne du week-end qui serait à temps partiel, à leur convenance, mais qui montrerait un intérêt sérieux pour les choses spirituelles. Et l'intérêt sérieux pour les choses spirituelles, ce n'est pas votre assiduité à l'Église ou votre intérêt peut-être pour le message ou non. Votre intérêt pour les choses spirituelles, c'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7. Est-ce que vous méditez les pensées de Dieu? Est-ce que vous cherchez sa volonté? Il n'est pas normal que dans les églises, les pasteurs doivent littéralement tordre le bras des gens pour les forcer à donner quelque chose ou faire des efforts pour que quelqu'un puisse s'engager pour l'œuvre de ministère. Ou il n'est pas normal qu'il y ait tellement facilement des divisions dans le corps de Christ. C'est l'esprit du monde. Dès qu'il y a quelque chose qui me déplaît, je m'en vais. Il y a une seule véritable raison pour laquelle on doit quitter une église, et là on doit vraiment quitter l'église, c'est quand elle annonce des fausses doctrines, parce que c'est du poison qui va empoisonner votre esprit et qui va vous conduire à croire des choses qui ne sont pas vraies et qui ne vont pas vous libérer. Mais sinon, il y a beaucoup de choses dans l'église qu'on devrait surmonter en disant soit, ok, il y a des choses où je ne suis pas d'accord, mais en fait le test de la soumission, c'est le désaccord. Tant qu'on est parfaitement d'accord, il n'y a pas de soumission. Mais le jour où je ne suis pas d'accord, je peux choisir tout de même de rester, d'apprendre quelque chose de la part de Dieu. Comprenez ce que je veux dire? Et donc il y a tellement de chrétiens qui sont vides, qui souffrent, qui sont confus, qui sont dans des liens spirituels. Et pourtant l'Église est l'endroit où par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, on peut trouver la délivrance. On peut trouver une façon saine de penser. Le bon sens, il est auprès de Dieu. Et alors, C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner si le monde n'est pas intéressé par ce que l'Église propose. Si les chrétiens sont obligés de se bourrer autant de médicaments anti-stress que dans le monde, vous n'avez pas besoin d'essayer d'amener Jésus qui est le prince de la paix. Hein? Vous ne voulez pas venir à Jésus, vous aurez la paix comme moi, si vous êtes stressé, angoissé, on n'a rien à offrir. Donc c'est pour ça, soyons conscients de nos faiblesses, soyons conscients de notre tiédeur, confessons-la à Dieu, soyons pas comme l'église de Laodicée, Apocalypse 3, hein, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Et le Seigneur dit non, tu as besoin, tu es pauvre, tu es nu, tu es aveugle, mais viens à moi. Et moi, je te donnerai ce dont tu as besoin. Je suis à ta porte, je frappe, je veux avoir cette communion avec toi, je veux qu'on puisse manger ensemble, partager ensemble. Rappelez-vous, tel le monde il est, tel il veut influencer l'Église. On avait l'illustration de la grenouille à un moment. Si vous mettez une grenouille dans l'eau bouillante, ben voilà, c'est sûr, elle va être brûlée. Mais si vous mettez une grenouille dans l'eau et que peu à peu vous augmentez la température, elle va s'habituer au bout d'un moment à mourir ébouillantée, mais sans chercher à fuir et à quitter. C'est un petit peu cette illustration de que nous pouvons être habitués à quelque chose qui est autour de nous si on n'y prend point garde. Alors, pour amener la conclusion, nous sommes dans une situation prophétique maintenant. Soyons-en conscients. Jean-Baptiste est venu dans son temps pour préparer la venue du Seigneur Jésus. N'est-ce pas vrai? Il est venu et il nous a dit, il a apporté son message, il a dit préparez-vous, repentez-vous, changez de mentalité, voici il vient, celui que Dieu envoie. Et nous sommes maintenant en train de devoir préparer la seconde venue. Donc on doit dire les mêmes choses, préparez-vous, le temps arrive. Et donc nous lui préparons une église glorieuse, sans tache ni ride. Donc il faut qu'il y ait cette œuvre de transformation. On ne peut pas dire on va être surpris par ce temps, parce qu'il y a tellement de choses qui nous l'annoncent. Donc je voudrais que vous puissiez réaliser cette conclusion. Vous pouvez expérimenter votre propre réveil spirituel. Ce ne sont pas des super programmes et activités qui peuvent nous changer. Développons une soif du surnaturel. Le surnaturel de Dieu aujourd'hui. Peut-être certains miracles, vous n'avez pas besoin aujourd'hui, mais pourquoi priver Dieu de pouvoir agir dans votre vie aujourd'hui? Alors, je vous propose encore de terminer en faisant ensemble une prière d'abandon, de consécration. Justement, on l'a peut-être déjà vu, on l'a peut-être déjà lu, mais je vous la propose encore une fois. Une prière d'abandon. Le Saint-Esprit appelle des hommes et des femmes à abandonner leur propre volonté. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il appelle des hommes et des femmes qui sont prêts à abandonner leur propre volonté et se saisir de la volonté de Dieu. Il se peut que dans le passé vous marchiez main dans la main avec le Saint-Esprit et aujourd'hui il semble que vous vous soyez éloigné de Dieu. Cependant, vous ressentez encore la présence du Saint-Esprit qui vous convainc. Votre part est alors de dire maintenant, « Seigneur, je m'abandonne à toi. Non seulement je veux être pardonné, lavé dans ton sang, restauré dans ma communion avec Dieu, mais je veux aussi atteindre des sommets élevés en Dieu comme jamais auparavant. Alors je désire prier avec vous maintenant afin que Dieu touche votre vie alors que vous décidez de vous abandonner à sa volonté. » Et on va le prier ensemble, et ce sera aussi pour tous ceux qui nous écoutent, qui peuvent prier cette prière. Je vais le dire avant vous, et chaque fois vous pourrez répéter, si vous le souhaitez. Père Céleste, nous venons à toi dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Nous reconnaissons que tes voix sont différentes de nos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tes voix sont élevées au-dessus des nôtres. Enseigne-nous, Seigneur. Parfois, nous ne savons que faire. Nous nous tenons dans ta présence maintenant. Nous voulons être ce que tu veux que nous soyons. Je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie, ma volonté et mes pensées. Prends-les et change-moi, afin que ma vie donne gloire et honneur à ton nom. Amen. Pardonne mes péchés. Guéris-moi de ma position. Guéris mon âme. Je reviens à toi de tout mon cœur et de tout mon esprit. Je te remercie, Seigneur, de me vivifier par ton esprit. Je te remercie de me donner une nouvelle vie. Je déclare que tu es mon Seigneur. Je vivrai pour toi à partir d'aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.